Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. 18h30 TU, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 21 juin 2017. John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, en Centrafrique, affrontement meurtrier à Bria où plus de 100 personnes ont trouvé la mort selon un dernier bilan. Au Mali, le projet de réforme constitutionnelle a été reporté au 30 juillet. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution saluant le déploiement du G5 Sahel dans la lutte contre les djihadistes. Au Sénégal, les députés ont adopté hier un nouveau code de la presse.
Les journalistes vont en prison, mais en plus, ils ont forcé disons les sanctions pécuniaires. C'est dans l'acte seul texte, une autorité administrative peut être amenée à arrêter les programmes d'une télévision, d'une radio ou bien la diffusion d'un journal.
Et puis, nous retrouverons Yacouba Ouédraogo pour les sports et Claire Morin-Gibourg pour la Muditeco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. La tension est toujours très vive dans l'est de la Centrafrique. Le bilan des affrontements hier mardi entre Anti-Balaka et une faction d'ex-Séléka à Bria est lourd. Plusieurs dizaines de morts, plus d'une quarantaine de blessés. Freeman Sepila.
Il est encore difficile au stade actuel de donner un chiffre exact des victimes de ces affrontements qui ont aussi causé d'énormes dégâts matériels. Des sources locales contactées par VOA Afrique parlent des dizaines de morts. Abbé Gildas Béni, curé de la paroisse Saint-Louis de Bria.
Je me suis approché des agents de la Croix-Rouge, mais eux-mêmes ils sont pas allés sur le terrain, si bien que c'est difficile de vous donner un chiffre exact concernant les décès. Mais si je me base un peu sur les témoignages reçus des déplacés qui ont quitté les quartiers pour venir sur les sites, ils m'ont fait comprendre qu'il y a des dizaines de morts. Et ces morts, gens, sont encore le sol de Bria.
Certaines sources parlent de plus de 100 morts. Est-ce que vous confirmez cela?
Je me réserve de pouvoir parler de 100 morts, mais plutôt des dizaines de morts.
Selon une source proche de l'organisation humanitaire Médecins sans frontières, plus de 40 blessés par balle ont été enregistrés rien que pour la journée d'hier. Ce mercredi, un calme précaire a régné au centre de la ville, mais la tension y est encore vive. La MINUSCA, la force de l'ONU, assure avoir pris des dispositions pour sécuriser les dizaines de milliers de déplacés massés aux alentours de sa base de PK3. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Nous reviendrons sur la situation à RCA dans la partie magazine. Par ailleurs, les handicapés sont particulièrement vulnérables et en première ligne des violences en RCA, dénonce un rapport publié ce mercredi par l'ONG Human Rights Watch, qui appelle à une meilleure prise en charge de ce groupe marginalisé. Au moins 5 personnes ont été tuées par l'explosion d'une mine lors d'une embuscade contre un convoi mené par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, a-t-on appris ce mercredi. Le week-end dernier, des attentats suicides coordonnés ont fait 16 morts dans un camp de déplacés où vivent plus de 10 000 personnes à la périphérie de la capitale. Un village plus au sud a été victime d'un raid meurtrier qui a fait 5 morts parmi les civils. Au Cameroun voisin, puis et d'après le journaliste Gibaye Gatama, 8 personnes sont mortes ce soir dans des attentats suicides à Kolofata au nord du Cameroun, soit 3 kamikazes et 5 civils. Toujours à propos du Cameroun, l'ONU s'est inquiétée mercredi du retour des réfugiés depuis le pays vers le nord-est du Nigeria, à Bangui, région dévastée par l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram et où l'accès aux services essentiels est limité. Je suis extrêmement préoccupé par le fait qu'un grand nombre de réfugiés nigérians hébergés au Cameroun retournent dans le nord-est du Nigeria. Région mal préparée pour les recevoir, a déclaré le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi. Au Mali, le projet de révision constitutionnelle a été reporté au 30 juillet, une décision prise en Conseil des ministres ce soir. Il faut dire que le projet en question est attaqué par des députés de l'opposition au niveau de la Cour constitutionnelle. Vers le possible déploiement d'une force africaine antiterroriste au Sahel, le projet de résolution élaboré par la France a été accepté par la totalité des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Paris et Washington sont donc parvenus à trouver un accord sur son contenu. Le point avec Morgan Guiriec.
C'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution saluant le déploiement du G5 Sahel, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina Faso, pour combattre les djihadistes dans la région. Pour autant, l'ONU ne donne pas mandat à cette force, comme l'avait proposé Paris dans son premier projet de résolution il y a 2 semaines. Les États-Unis s'y étaient opposés, estimant que le projet manquait de précision. La résolution adoptée aujourd'hui n'invoque pas le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui autorise l'utilisation de la force. Qu'à cela ne tienne, l'ambassadeur français à l'ONU, François Delattre, estime que le vote unanime du Conseil traduit un soutien politique maximum à la nouvelle initiative sahélienne. Les pays africains du G5 Sahel ont accepté en mars de constituer une force de 5000 hommes chargée d'une mission spéciale de contre-terrorisme dans la région. Le président français Emmanuel Macron doit assister au prochain sommet du groupe le 2 juillet à Bamako.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé hier qu'il discutait avec les autorités du Congo du retrait de leurs soldats déployés en RCA, où ils sont accusés de divers manquements, notamment de sévices sexuels, de corruption et de manque de discipline. Quelques 629 casques bleus congolais sont concernés par ce retrait. Le tribunal correctionnel de Paris a commencé mercredi à aborder le fond du dossier au procès du vice-président de Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, dans l'affaire des biens mal acquis. L'ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts, promu vice-président par son père, Théodorin Obiang, est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, des détournements de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. En début d'audience ce mercredi, le tribunal a annoncé qu'il statuerait sur des points de procédure soulevés par la défense en même temps que sur le fond du dossier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert à la nomination de l'universitaire et ancien ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, comme nouvel émissaire onusien en Libye, pays où les affrontements entre milices rivales entretiennent le chaos provoqué par le renversement du colonel Muammar Kadhafi en 2011 et Kiabadou.
La nomination de Ghassan Salamé intervient après 4 mois de recherche pour trouver un successeur à l'Allemand Martin Kobler, qui occupait ce poste depuis novembre 2015. Elle a été soutenue par le secrétaire général Antonio Guterres après une série de rejets par des membres du Conseil et d'autres personnalités envisagées. Ghassan Salamé sera en charge de chapeauter les négociations pour parvenir à un accord en vue de la composition d'un gouvernement d'unité nationale en Libye. En février dernier, les États-Unis s'étaient opposés à la nomination de l'ancien premier ministre palestinien Salam Fayyad, l'administration américaine expliquant agir dans l'intérêt d'Israël, son allié. Depuis, plus d'une dizaine de noms ont été évoqués avant que les 15 membres du Conseil de sécurité ne finissent par s'entendre sur Ghassan Salamé. En plus de son expérience de ministre de la Culture, l'universitaire libanais a également été conseiller de l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan et de la mission onusienne en Irak.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONU renouvelle son appel de fonds pour financer ses programmes d'aide humanitaire cette année en raison des besoins qui ne cessent de croître. Les Nations Unies réclament le chiffre record de 23,5 milliards de dollars. Jacques Aristide.
La demande de l'ONU remonte à décembre dernier, mais jusqu'ici, elle n'a recueilli qu'un quart de ce montant, soit 6,2 milliards de dollars. L'organisation affirme qu'elle doit dispenser une aide vitale aux civils pris au piège dans les conflits en Afrique et au Moyen-Orient, mais aussi à 20 millions de personnes confrontées à la famine au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. Le patron des opérations humanitaires de l'ONU explique que la sécheresse au Kenya, l'escalade de la violence en République démocratique du Congo, de même que les inondations au Pérou, ont envenimé la situation dans le monde. D'après Stephen O'Brien, le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire a atteint le chiffre record de 141 millions dans 37 pays. « Nous sommes engagés dans une course contre la montre », dit-il. Pour leur part, les États-Unis ont déjà versé 1,6 milliard de dollars, environ 25% de la somme totale que demande l'ONU. À son arrivée au pouvoir, l'administration du président Donald Trump avait indiqué qu'elle allait revoir les contributions américaines aux agences onusiennes.
Petite avancée, tout de même, la famine déclarée il y a 4 mois au Soudan du Sud est terminée, ont annoncé mercredi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui soulignent pourtant que le nombre de personnes affamées n'a jamais été aussi élevé dans ce pays en guerre civile. Le Vatican a annoncé ce mercredi que le pape François avait décidé de soutenir une série de projets d'aide au Soudan du Sud, à défaut de pouvoir se rendre lui-même dans le pays en guerre. Au total, le Vatican versera près de 500 000 euros pour deux hôpitaux tenus par des sœurs, un programme de formation d'instituteurs et un projet d'achat de semences d'outils pour 2 500 familles d'agriculteurs. Et puis un hélicoptère militaire soudanais s'est écrasé dans le nord du Soudan, tuant ses quatre membres d'équipage, a indiqué l'armée mercredi. Le Fonds monétaire international a approuvé un crédit de 642 millions de dollars au Gabon, dont l'économie souffre d'une chute des prix du pétrole, comme d'autres pays producteurs d'Afrique. Et puis, Luanda a repris à Hong Kong le titre de ville la plus chère du monde pour les expatriés, selon l'étude annuelle du cabinet américain Mercer, publiée mercredi. Détrônée en 2016, la capitale angolaise retrouve son rang malgré la dépréciation de sa monnaie. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibault.
Djibouti va avoir sa monnaie numérique. L'annonce a été faite sur la chaîne de télévision nationale, la RTD. La modernisation du système de paiement de la Banque centrale de Djibouti va permettre la dématérialisation de beaucoup d'activités financières grâce aux différentes applications disponibles comme les services bancaires mobiles, les virements et chèques électroniques, etc. La création d'un fonds de garantie partielle et des crédits pour l'appui au financement des PME-PMI est également prévue. La nouvelle compagnie Air Sénégal vient de se doter de ses deux premiers avions, deux ATR-72-600, achetés lors du Salon du Bourget en France pour un montant de 50 millions d'euros. Le premier avion devrait décoller le 7 décembre prochain des pistes du nouvel aéroport international de Dakar. Selon ATR, ce modèle est idéal pour l'Afrique. Il peut se poser partout, sur des pistes courtes, non asphaltées, par météo défavorable et avec un faible coût d'opération. La 9e édition du FAC, le Forum africain du carbone, aura lieu du 28 au 30 juin prochain à Cotonou, au Bénin. Organisé par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ce forum veut renforcer l'engagement entre acteurs étatiques et non étatiques dans les secteurs clés comme l'énergie et l'agriculture.
Musique qui ne trompe pas, Yacouba Ouédraogo est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
Suite de la 4e journée de la Ligue africaine des champions.
Et malheureusement, pour vous John, je vais dire, le Coton Sport de Garoua ne jouera pas les quarts de finale. Défaite des Camerounais à domicile 0-1 devant les Zambiens de Zanaco. À suivre aussi ce soir, Al Hilal du Soudan, Étoile du Sahel, Al Ahly de Tripoli, Caps United du Zimbabwe et Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns.
Hier, l'AS Vita Club a retrouvé le sourire.
Oui, l'AS Vita s'est donné un bol d'air dans le groupe C grâce à sa victoire 2-1 face à Saint-Georges d'Éthiopie. Autre résultat dans le groupe A à Khartoum, El Merrek se relance en battant 2-1 Ferroviaro de Beira. À Casablanca, le Wydad bat 2-0 Al Ahly d'Égypte dans le groupe D.
La Coupe CAF, dernier match ce mercredi.
Et ça se joue en Afrique du Sud où Platinum Star accueille CF Sfaxien. Hier, coup de victoire du Oroya de Guinée à domicile 1-0 devant CF Mounana du Gabon. Supersport a été tenu en échec sur ses propres installations par Mazembe, 0-0. A noter aussi la victoire écrasante du Recreativo Libolo d'Angola, 3-0 devant Zesco United de la Zambie. Victoire également pour River United du Nigeria, 2-1 face aux Ougandais de Kampala City. Hilal El Obied, club du Soudan, domine 2-1 Smoa d'Égypte. Club africain s'impose 2-1 également face aux Fus de Rabat. Le Mouloudia club d'Alger bat 2-1 Mbabane.
Et puis Coupe des Confédérations en Russie 2017, le Portugal et Cristiano Ronaldo se reprennent.
Ils se reprennent effectivement, victoire 1-0 devant la Russie. Cristiano Ronaldo a inscrit le seul but de la rencontre à la 8e d'un coup de tête. Les Portugais occupent donc provisoirement la première place du groupe A avec 4 points en attendant le résultat de la rencontre Mexique-Nouvelle-Zélande.
Merci Yacouba Ouédraogo. We'll be right back.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VO Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent au dossier du jour et on commence par la République centrafricaine où l'on parle des difficultés dans la mise en œuvre de l'accord politique signé lundi à Rome par des représentants du gouvernement des Nations Unies ainsi que ceux des 14 groupes armés sous l'égide de la communauté de Saint-Égide. Cet accord prévoit un cessez-le-feu immédiat sur l'ensemble du territoire national alors que l'on assiste depuis le week-end dernier à un regain de violence à Bria dans le centre-est du pays. Félix Yepasi Zembro a joint l'un des signataires de l'accord de Rome, Martin Zigele, président du Mouvement pour la libération du peuple centrafricain, le MLPC.
Oui, je pense que la particularité de l'accord qui a été signé à Rome, c'est que tous les groupes armés étaient là, le représentant du gouvernement était là, le ministre, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères et le conseiller politique du président de la République. Et l'Assemblée était représentée par son deuxième vice-président et puis un certain nombre d'invités, partis politiques, étaient là comme observateurs. Et cet accord, je pense que il sera suivi de faits parce que tout simplement, une réunion a débuté ce matin à Bruxelles et regroupe toutes les grandes institutions internationales, c'est-à-dire les Nations Unies, l'Union africaine, la CEAC, pour approfondir les différents aspects de l'opérationnalisation de cet accord-là. Donc on pense que pour faire la paix, il faut mettre en place des infrastructures, il faut mettre en place un certain nombre de dispositions pratiques, n'est-ce pas, et qui permettront de faire en sorte qu'il y ait quand même une avancée dans le processus, parce qu'aujourd'hui c'est le statu quo. Et si on reste dans le statu quo, on ne fait rien, on ne tente rien, on ne pourra pas parvenir à quelque chose.
Monsieur le Président, cet accord de Rome a-t-il des chances d'aboutir, d'autant plus que l'on assiste depuis quelques temps à un regain de violence dans le centre-est du pays?
Nous pensons que les responsables des différents groupes armés doivent prendre leurs responsabilités parce que leurs représentants ont signé cet accord-là qui a des dispositions vraiment très pratiques. Cet accord de 8 pages comporte des dispositions très pratiques qui demandent leur opérationnalisation. Donc nous pensons que le gouvernement doit faire sa part de choses. Les groupes armés doivent également donner leur engagement, traduire leur engagement en actes, notamment par la cessation des hostilités, par l'ouverture du territoire et par le retour de l'administration dans les zones qu'ils occupent actuellement, ces groupes armés. Donc je pense qu'il faut encourager ce mouvement et comme je le dis toujours, vaut mieux avoir un accord et obtenir des avancées, même si elles ne sont pas spectaculaires, puisque vous faites allusion à la poursuite des combats sur le terrain, mais il y a une direction dans laquelle tout le monde s'est inscrit et il faut que cette direction soit maintenue, amplifiée, soutenue. Et nous verrons à l'œuvre, il y aura des obstacles certainement qui vont surgir, mais il faut avoir le principe que dès le moment où la volonté d'aller de l'avant existe, nous souhaitons que cette volonté soit partagée et que les résultats soient visibles, notamment par la cessation des hostilités.
Autre question, M. le Président. Cet accord de Rome prévoit-il une amnistie pour les crimes commis en Centrafrique?
J'ai lu tout le texte de l'accord, je l'ai signé, je n'ai vu aucune disposition qui parle de l'amnistie.
Martin Zigele, président du Mouvement de libération du peuple centrafricain, l'un des signataires de l'accord de Rome.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le bilan sur la situation des réfugiés en Afrique. Double événement cette semaine, la journée mondiale des réfugiés le 20 juin, suivi d'un sommet en Ouganda. Le continent est le plus touché par la crise des réfugiés, alors que les projecteurs restent braqués sur les migrants qui tentent d'entrer en Europe. Comment les Africains peuvent-ils mieux montrer leur soutien aux familles déracinées? Que doit faire la communauté internationale pour soulager la pression sur les pays d'accueil en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Tchad, le 20 juin 2017 marquait la fin de la prorogation du mandat des députés de l'Assemblée nationale. Pour les partis politiques de l'opposition et certains internautes, elle signale la fin de la légitimité de l'actuelle législature. Des voix s'élèvent pour réclamer leur démission collective et exiger du gouvernement la tenue immédiate d'élections législatives. André Code Majinger.
C'est le Parti pour les libertés et le développement PLD du feu Ibn Omar Mohamed Saleh qui a lancé le débat. Le PLD demande à son unique député qui siège au Parlement de démissionner. Car, selon le parti, toutes les lois, traités et autres conventions qui seront adoptées par cette Assemblée nationale après le 21 juin n'auront aucune valeur juridique. Dès lors, les internautes récupèrent et exigent sur la toile la démission de 30 opposants parlementaires sur 180 que compose l'Assemblée nationale du fait que l'actuelle législature a terminé son mandat constitutionnel de 4 ans en juin 2015. Réaction du ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabre Fadoul.
Ce qui empêche aujourd'hui le gouvernement à organiser de nouvelles élections législatives, c'est la situation économique et financière de notre pays. Nous faisons des gymnastiques pour honorer les salaires des fonctionnaires. Comment voulez-vous, dans ces conditions, qu'un État se permette d'organiser des élections législatives?
Plusieurs partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se livrent à la guerre des ondes en interpellant la conscience des députés de l'opposition. Selon eux, démissionner de cette troisième législature qu'ils qualifient d'illégale et d'illégitime au service de la dictature est un acte responsable qui peut sauver le peuple tchadien déjà agonisé par le régime. Ils demandent au chef de file de l'opposition, lui aussi député à l'Assemblée nationale, de donner un exemple. Saleh Kibzabo convoque ses collègues à un séminaire de réflexion.
Je dis tout simplement que ni moi ni un autre personne ne démissionnera. Parce que on ne comprend pas pourquoi la polarisation sur les députés de l'opposition. Donc nous, on pense que nous avons un rôle important que nous jouons malgré notre nombre à l'Assemblée nationale. Maintenant, nous rappelons la Constitution qui dit qu'il n'y a pas de mandat impératif et donc aucun parti politique ne peut donner un ordre à un député. Tout mandat impératif est nul et de nul effet. Les députés de l'opposition sont de vrais députés. Ils sont battus pour être élus. Ils savent ce que c'est qu'une élection. Beaucoup de ceux qui font du bruit là ne savent pas ce que c'est qu'une élection. Nous ne sommes pas des députés décrétés.
Le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdoulaye Sabre Fadoul, rappelle aux députés la loi numéro 11 qu'ils ont eux-mêmes adoptée en février 2015 et promulguée par le président de la République le 12 mars de la même année.
J'étais à l'époque à l'Assemblée nationale, j'étais présent. La loi constitutionnelle a été adoptée pour dire qu'en attendant la mise en place d'une prochaine Assemblée nationale, cette Assemblée nationale va continuer à siéger. Ce n'est pas le président Idriss Déby qui a signé un décret pour dire « Allez, je vais prolonger le mandat des députés ». Donc c'est assez curieux de voir surgir ce débat-là aujourd'hui.
André Kodnoumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM. Au Tchad.
Les députés sénégalais ont adopté hier à l'unanimité un nouveau code de la presse qui était bloqué pendant plus de 7 ans. Pour qu'il puisse finalement passer à l'Assemblée, l'adoption des délits de presse reste pénalisable aux grandes dames du syndicat des journalistes. La réaction a donc été mitigée chez les professionnels des médias. Abdourahmane Dia a joint à Dakar Bakary Domingo Mané, président du COREED, le comité d'observation des règles d'éthique et des déontologies.
Depuis 2009, on avait commencé à réfléchir sur le code. On a terminé en 2010, on l'avait à l'époque déposé sur la table du président de la République, de l'ex-président Ablaye Wade, et qui avait dit que c'est un bon code et qu'il ne changerait aucune virgule. Malheureusement, quand il l'a envoyé à l'Assemblée, ces députés ont refusé de ne pas les voter. C'est la même chose aussi avec Mati. Quand il est venu, on a envoyé le texte à l'Assemblée, les députés ont refusé de voter pour la bonne et simple raison qu'ils ne voulaient pas entendre parler de dépénalisation. Voilà. Donc, finalement, en septembre 2016, le gouvernement a pris le texte avec les acteurs. Ils ont enlevé la mention dépénalisation. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, hein, ils ont voté le texte, ça a mis du temps. Et ils ont corsé aussi la dose dans les sanctions pécuniaires. Voilà, parce que c'est ça, véritablement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les sanctions vont jusqu'à 30 millions de francs.
Donc finalement, les journalistes n'ont pas obtenu la dépénalisation du délit de presse. Et en dessus de cela, les peines pécuniaires ont été alourdies. Donc la presse n'a pas beaucoup gagné dans ce nouveau code, si on peut dire.
C'est vrai, non seulement les journalistes vont en prison, mais en plus, ils ont corsé, disons, les sanctions pécuniaires. Et c'est ça qui nous fait réfléchir. Mieux encore, est-ce que vous savez que dans l'actuel texte, une autorité administrative peut être amenée à arrêter les programmes d'une télévision, d'une radio ou bien la diffusion d'un journal si elle juge que l'information donnée par ce journal ou bien par la radio ou par la télévision est une atteinte grave, n'est-ce pas, à la sécurité, n'est-ce pas, du pays.
Mais quand même, pour ce qui est du statut de journaliste, vous avez pu obtenir gain de cause, n'est-ce pas?
Oui, c'est pour pourquoi je disais que la position, n'est-ce pas, des médias est une position mitigée. C'est-à-dire que quelque part aussi, il y a eu des avancées. Ça, il faut le reconnaître. Vous savez, dans l'ancienne loi, la loi 96-04, évidemment, il n'y avait pas, le statut n'était pas clair, le statut du journaliste. Cette fois-ci, le statut est très, très clair. C'est-à-dire que le journaliste, c'est celui qui est sorti d'une école de formation, est diplômé d'une école de formation dûment reconnue par l'État, est journaliste en licence, quelqu'un qui a la licence ou qui a l'équivalence, n'est-ce pas, de la licence, mais qui séjourne durant 2 ans dans une rédaction pour apprendre les béabas du traitement, n'est-ce pas, de l'information.
C'était Bakary Domingo Mané à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Mali, à 4 jours de la fin du mois de Ramadan, les préparatifs de la fête se font dans la morosité. Sur les marchés, les clients se font rares, dans les salons de coiffure et ateliers de couture. Ça n'est plus l'affluence non plus. Kassim Traoré.
En cette veille de fête de Ramadan, ça travaille moins dans les salons de couture et de coiffure. Selon certains tailleurs, les Maliens aiment attendre les dernières minutes. D'autres vont à la friperie, mais même là aussi, ce n'est pas la grande affluence, comme nous explique Madeleine Koulibaly, vendeuse de friperie. Cette année, c'est très difficile. À la différence des autres années de veille de Ramadan, c'était l'affluence. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de clients. Il n'y a pas assez de clients. C'est pour cela que nous avons gardé beaucoup de balles que nous ne voulons pas ouvrir pour le moment. Parce que les clients se font rares. Les femmes qui sont très actives pour les fêtes trouvent que la situation de cette année n'est pas facile. L'insécurité ayant augmenté le chômage chez les jeunes a réduit considérablement la bourse des Maliens moyens.
Moi, je m'appelle Hassan Traoulé. Bon, pour moi, cette année, la célébration de la fête d'été ne serait pas comme l'année passée. Parce que cette année, la vie est très chère. Les gens n'ont pas d'argent pour préparer et faire les dépenses. Pour moi, c'est dû à l'état actuel du pays. L'insécurité, le chômage.
Pour les rares femmes que nous avons rencontrées au grand marché de Bamako, préparer la fête en plus des dépenses du mois de Ramadan n'est pas facile pour tous les chefs de famille.
On prépare la fête bon, comme on le peut, puisque avec la vie chère de maintenant, même au marché, on constate que les produits qui sont sur le marché, les habits des enfants, les chaussures sont très chers. C'est un peu difficile de préparer la fête et puis les nourritures. Donc, puis avec les dépenses du mois de Ramadan, préparer la fête, c'est un peu difficile.
Il y a aussi de la friperie arabe au Mali. Ce marché est dominé par les habits des hommes. Mais là aussi, les vendeuses sont dans l'attente des clients. Depuis que nous avons commencé à vendre la friperie arabe, la difficulté de cette année est nulle part. Nous n'avons jamais connu une telle difficulté à la veille de Ramadan. Cette année, les clients ne viennent pas, alors que la friperie arabe est moins chère que les autres friperies. Même nos revendeurs pensent que c'est cher. D'autres Bamakois préparent la fête dans la plus grande simplicité, avec des moyens de boire. Mais ils priorisent les habits des enfants et leurs mamans.
Je pense que la fête, c'est le mois de carême. Les gens jeûnent, prient. Et maintenant, quant à la préparation de la fête, je pense que chacun fait de son mieux.
Si tout va bien, la fête de Ramadan ou Eid el-Fitr sera célébrée au Mali le dimanche ou le lundi prochain. D'ici là, les préparatifs continuent. D'ici là, les préparatifs vont bon train. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise à don de par Georges Léonard Sagno, Alfredo Santos était à la console. Présentation John Linden, merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Clédou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.